Il est 8h18 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, président de la commission des finances à l'Assemblée et co-rapporteur de la mission Covid-19.
Bonjour Éric Woerth.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Le vote à l'Assemblée aura bien lieu tout à l'heure dans la foulée du débat et du discours du Premier ministre sur la stratégie de déconfinement. Tout d'abord, dans quel état d'esprit vous appréhendez ce moment crucial pour la suite et pour notre pays ?
Bah oui, c'est vrai que c'est un moment important, parce que je pense que le Premier ministre ne va pas se contenter de généralité. On en est maintenant aux conditions précises de déconfinement. Donc j'attends avec impatience, in fine, les arbitrages qui auront été rendus. Sur les conditions du vote, bon, d'abord, le gouvernement est dans son droit. Il fait un débat, il n'était pas obligé de le faire, et demande un vote, il n'était pas obligé de le faire. Ça, nous l'avons très bien compris, et nous avions demandé qu'il y ait un débat, et donc nous sommes satisfaits sur le fait qu'il y ait un débat. On aurait pu apprendre les choses autrement par un journal ou dans une conférence de presse. Donc c'est bien pour le Parlement, et je pense que c'est bien, d'une manière générale, pour la vie politique et la vie en société et la vie démocratique française. Simplement, le gouvernement aurait dû attendre 24 heures, quoi, avant de demander un vote, parce qu'on va avoir le plan, on l'a pas eu avant. Donc on aura le plan dans un discours, et puis après un débat qui ne sera pas vraiment un débat. Chacun dira un peu ce qu'il en pense.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de recul, justement, pour pouvoir voter sur l'ensemble de ces mesures ?
C'est du bon sens. On vous présente un plan fondamental. C'est pas une histoire comme ça, anecdotique. C'est fondamental, c'est grave, c'est très sérieux. Ça engage la vie aussi d'un certain nombre de nos concitoyens. Il y a des équilibres à trouver entre le redémarrage économique et la protection sanitaire. Donc 24 heures auraient été, me semble-t-il, du bon sens et une bonne manière faite à l'Assemblée pour que le vote soit encore plus solide et encore plus sérieux.
Vous ne les avez pas. Éric Woerth, la droite a voté tous les textes d'urgence sanitaire et économique depuis le début de la crise. Aujourd'hui, on sent que cette unité a un peu volé en éclats. Mais vous pourriez ne pas suivre l'exécutif cet après-midi ?
Je ne sais pas ce que fera le groupe. Je ne connais pas le contenu du plan. Moi, j'ai plutôt un a priori positif. Ce que j'avais eu sur les deux budgets d'urgence qui ont été votés, que les Républicains ont voté, ont cherché à amender, évidemment, avec peu de succès. Enfin, on a cherché à les amender, à les modifier. On a fait nos propres propositions. Mais in fine, on a voté ce qu'a proposé le gouvernement, parce qu'on a considéré que sur le plan économique et financier, ça répondait à la situation.
Donc,
ça répondait
à la situation de crise. Éric Woerth, vous êtes plutôt dans cette continuité, finalement.
Oui, moi je m'exprime à titre personnel. Là, je ne sais pas si je m'abstiendrai, je ne sais pas si je voterai pour. En tout cas, je ne voterai pas contre, à moins qu'il y ait évidemment des éléments à l'intérieur que je considère comme tout à fait inacceptables. Non, la question pourrait se poser beaucoup, notamment si le texte du gouvernement ou si les propos du Premier ministre étaient beaucoup trop généraux. Si les propos du Premier ministre est de renvoyer à plus tard à des mesures de précises. Évidemment, cette étape sera à ce moment-là totalement ratée. Donc, on ne pourra pas s'associer à cela. Mais je pense que le Premier ministre va dire des choses précises, sujet par sujet. La santé, évidemment, la reprise des écoles, évidemment.
Et la reprise économique. J'aimerais qu'on en parle avec vous, Éric Woerth.
Et l'économie.
Il devrait y avoir une stratégie de déconfinement économique, d'autant que la situation sur le marché de l'emploi se détériore, les chiffres sont mauvais. Alors, le pire n'est jamais certain, mais que faut-il craindre dans ce domaine ?
Ah ben il faut craindre un enchaînement terrible, qui est de dire au fond l'économie reprendrait plus lentement qu'ailleurs, ça produirait une crise sociale, c'est-à-dire une augmentée extrêmement importante du chômage, on le voit dès le mois de mars, et puis après il y a un enchaînement, un cercle vicieux, comme on sait malheureusement le faire en France parfois, avec une montée des populismes, des extrêmes, peut-être une reprise des contestations sociales. Donc il y a cet enchaînement qui peut être extrêmement grave. Donc la reprise du travail, elle est fondamentale, réellement, vraiment. Les PME doivent reprendre, l'industrie doit reprendre. On travaille moins aujourd'hui en France que dans beaucoup d'autres pays. Des pays comme l'Allemagne, nos voisins, je ne parle pas de pays éloignés, nos voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne, même l'Italie aujourd'hui du Nord, commence à travailler plus.
Éviter justement l'enchaînement que vous venez de décrire et qu'on évidemment ne veut pas vivre parce que la situation de l'emploi se détériore malgré le recours massif au chômage partiel, ce dispositif qui concerne, rappelons-le, un peu plus de 10 millions de travailleurs, est-ce qu'il faut le poursuivre, oui, et jusqu'à quand ?
Je pense que le dispositif de chômage partiel, il faut le poursuivre. Mais il va atteindre ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on demandera toujours de plus en plus de moyens de protection. Et à un moment donné, il faudra bien sortir de son confinement et retourner au travail à partir du moment où les entreprises auront respecté ce qu'elles feront, la capacité de travailler en sécurité pour leurs travailleurs. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudra basculer les crédits qui aujourd'hui sont sur le chômage partiel, qui sont absolument considérables. C'est de l'ordre de 10, 15 ou 20 milliards par mois complet, y compris les pertes de cotisations sociales. Il faudra basculer l'effort qui est fait sur le chômage partiel sur peut-être des allègements de charges aux entreprises, sur les charges patronales, pour réduire le coût du travail ponctuellement dans cette période de reprise. Il faut tout faire pour transformer le chômage partiel en travail réel. Si le chômage partiel se transforme en chômage réel pour nombre de nos concitoyens, ce qui peut arriver, quand vous avez 250 000 chômeurs supplémentaires au mois de mars, c'est dû au blocage total des embauches. Il n'y a jamais eu aussi peu d'embauches en France depuis bien longtemps. Et ça va continuer. Et viendront en plus les personnes qui sont au chômage partiel et qui tomberont dans le chômage, malheureusement.
Évidemment,
tout court.
C'est le risque.
Donc
alors,
on doit éviter cela à tout prix par la reprise de l'économie. Et pour éviter les problèmes, il ne faut pas qu'il y ait d'ordre et de contre-ordre. Il ne faut pas qu'il y ait un ministre qui dise quelque chose et l'autre ministre qui dise le contraire. Il faut que le gouvernement et la parole publique soient claires.
Et la même voix. Mais arrêtons-nous sur la reprise, parce que vous êtes force de proposition au sein des Républicains et vous dites notamment qu'il est possible de rouvrir les cafés, les restaurants dans les territoires où l'épidémie a été peu présente. Par exemple, dans le Cantal, on peut rouvrir peut-être même dès aujourd'hui par rapport à d'autres territoires. C'est votre proposition.
Oui, nous pensons qu'à un moment donné, les territoires vivent une histoire extrêmement différente sur ce sujet, et que dans un certain nombre de territoires, avec les gestes barrières, etc., tout ce qu'il faut, il est possible de commencer à réouvrir des lieux comme les cafés, comme des commerces, tout de suite. Et puis après, progressivement, étendre les choses et de façon prudente en fonction de l'évolution du virus. Mais on a besoin de cela. Et on a besoin réellement d'une programmation très précise des choses. On ne peut pas, dans le domaine économique, tâtonner ou tergiverser. Sinon, ça veut dire tergiverser avec la France, avec l'économie française, avec l'emploi des uns et des autres, avec les revenus, avec la liberté in fine pour notre société
À ce sujet, Éric Woerth, justement, vous proposez pour soutenir cette reprise économique la création d'un livret C comme coronavirus, pour que l'épargne puisse être utile afin de soutenir la reprise. Mais ça veut dire que c'est à nous de payer la facture, que c'est toujours les mêmes, les premiers de corvée.
Mais pas du tout, c'est une très mauvaise interprétation des choses. Il y a eu une énorme épargne qui a été constituée pendant cette crise. C'est, selon les économistes, c'est de l'ordre de 55, et selon les banques d'ailleurs, c'est de l'ordre de 55 milliards d'euros ou 60 milliards d'euros, c'est gigantesque aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un surplus d'épargne. Déjà la France épargne beaucoup. Donc là, elle épargne beaucoup les gens. Au fond, nous dépensons peu. On est chez nous, on dépense peu. Donc il y a évidemment une épargne très très importante. Et cette épargne, elle va rester pendant pas mal de temps, parce qu'il y a eu de l'incertitude, de l'inquiétude, la montée du chômage. Il y aura du chômage. Et donc la montée du chômage, elle va créer aussi cette inquiétude. Donc les gens vont rester avec cette épargne, ou pour une bonne partie. Alors une partie doit être utilisée, évidemment, il faut tout faire pour qu'elle soit utilisée pour la consommation. Donc il faut des mesures de soutien à la consommation et à la demande. Mais il faut également, pour le reste, le reliquat de cette épargne, cette forme de cagnotte d'épargne, il faut lui permettre de s'investir dans l'industrie. Il faut s'investir dans l'industrie. Et là, y a un truc qui est très connu, c'est le livret A. Beaucoup de Français en ont un, ils ont confiance, et le mot de confiance est très important, ils ont confiance dans cela, donc ouvrons un livret C, qui serait un livret qui récupérerait volontairement, évidemment, personne ne peut être forcé à cela, mais volontairement
oui,
ce surplus
quand même,
d'épargne,
oui.
bien sûr, il n'y a rien de forcé là-dedans. Mais cette épargne, elle existe. Souvent on dit, il faut un grand plan d'épargne.
Bon, finalement, vous rejoignez le gouverneur de la Banque de France, il faudra un moment rembourser tout cet argent aujourd'hui.
Oui, évidemment. Tous ceux qui disent qu'il suffira d'annuler les dettes d'un coup de gomme, c'est des doux rêveurs. Vous savez, ces crises, elle est très très importante, cette crise. Elle est beaucoup plus profonde et plus grave encore que la crise de 2008 pour d'autres raisons. Si vous avez des crises centenaires qui ont lieu tous les 10 ans, ça veut dire que le rythme est multiplié par 10. Vous ne pouvez pas vous endetter pour résoudre cette crise et attendre simplement 99 ans pour l'absorber. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a d'autres, il faut évidemment répondre répondre à cette avalanche, au fond, d'argent et de dettes. Il faut y répondre par une reprise extrêmement solide. Sans doute, en essayant de favoriser un peu d'inflation, et ça c'est aux banques centrales d'essayer de le faire, et puis évidemment laisser aux banques centrales la capacité d'injecter encore de la liquidité. Mais il faut aussi coordination européenne. Si les Européens ne sont pas coordonnés, et aujourd'hui, visiblement, ça marque le pas, eh bien, la qualité de la reprise sera infiniment plus faible qu'elle ne devrait l'être.
Que de défis, Eric Woerth.
Que les Européens ne se mettent pas d'accord.
Bien sûr. Et le premier d'entre eux, ce sera tout à l'heure avec ce plan de déconfinement. Et on verra quelle sera la stratégie, notamment de la droite. Merci d'avoir répondu à mes questions. Place à présent aux questions et interpellations des auditeurs avec vous, Mathieu. Et